décortiquons tout ça. Imaginons une situation juste un instant. Quelqu'un s'assoit dans un cinéma pour regarder un film, disons un thriller de science-fiction dystopique.
D'accord. Le genre bien sombre, j'imagine.
Ouais, très sombre. Avec des villes en ruine, une société complètement effondrée, un désespoir total. Mais, et c'est là le truc, pour une raison quelconque, cette personne est intimement convaincue qu'elle est en train de regarder un documentaire historique.
Oh, waouh ! L'angoisse absolue.
L'horreur pure. Et cette panique face à ce qui se déroule sur l'écran, tout cela viendrait d'une simple erreur de catégorie. On ne regarde pas une allégorie de la même manière qu'on lit un rapport de police, en fait.
C'est sûr, l'approche est totalement différente.
Et ce sentiment de vertige, cette impression super troublante de lire le mauvais genre littéraire, c'est très exactement ce qui frappe quiconque ouvre le livre de Job au premier degré.
Absolument, c'est un choc pour beaucoup de gens.
Dans notre analyse d'aujourd'hui, on plonge en profondeur dans les travaux du docteur John Walton, et plus particulièrement dans sa recherche intitulée « Session 26, Dieu dans le livre de Job ».
Une recherche vraiment incontournable pour le coup.
Complètement. Il avance une thèse fascinante, mais qui oblige à regarder en face une réalité profondément dérangeante. Si on fait une lecture purement littérale, vraiment historique de ce texte millénaire, le comportement de Dieu semble tout simplement effroyable.
Le terme effroyable n'est pas trop, hein. Le texte brosse le portrait d'une divinité qui heurte très violemment la conception traditionnelle de la justice et de la bonté.
C'est clair.
Et c'est justement ce qui rend l'étude de John Walton si cruciale. Je suis convaincue que sa force, c'est de refuser de détourner le regard des aspérités du texte pour proposer des explications édulcorées.
Prenons les faits tels qu'ils sont présentés dès les premiers chapitres, quoi. On nous montre un Dieu qui semble totalement ignorant de ce qui se passe sur Terre.
Oui, puisqu'il est obligé de demander des rapports à ses subordonnés.
Voilà. Ensuite, il se lance dans une sorte de pari morbide avec la vie d'un homme innocent. Il ruine Job de fond en comble. Il anéantit ses troupeaux, détruit ses serviteurs et va jusqu'à sacrifier tous ses enfants.
C'est une destruction totale.
Totale. Et tout cela de son propre aveu, sans aucune justification liée au comportement de Job. Et quand cet homme, brisé et malade, implore une explication, Dieu l'ignore pendant des chapitres entiers.
Le silence est assourdissant.
Et quand il finit par apparaître, au lieu de le rassurer, il l'intimide avec un discours écrasant sur des créatures légendaires terrifiantes. Et pour clore ce cauchemar, il lui rend sa prospérité sans jamais formuler la moindre excuse.
Ni même une explication, d'ailleurs.
Exactement. Alors, la question c'est, comment peut-on tirer la moindre sagesse, la moindre lumière spirituelle d'un scénario aussi chaotique et destructeur ?
En fait, ce qui est fascinant ici, c'est que la confusion vient du point de départ. John Walton souligne que nous posons généralement la mauvaise question face à ce texte.
C'est-à-dire ?
Pendant des siècles, les lecteurs se sont demandé comment Dieu peut-il se révéler ainsi ? Alors qu'il faut plutôt se demander qu'est-ce que ce dispositif littéraire révèle sur les mécanismes de la sagesse divine.
Ah, la nuance est de taille.
Elle est colossale. Et pour déverrouiller toute cette étrangeté, il faut accepter que Dieu, dans le cadre strict de ce récit, est un personnage.
Attends, un personnage ?
Oui, un personnage littéraire. Il est façonné par la rhétorique et les objectifs d'un auteur de l'Antiquité, au même titre que Job, que ses amis, ou même que les forces de la nature mentionnées plus tard.
Considérer Dieu comme un simple personnage littéraire dont les actions sont dictées par l'agenda d'un auteur antique, c'est vertigineux quand on y pense.
Ça bouscule nos habitudes, c'est certain.
Mais si on suit cette logique, la fameuse scène d'ouverture, ce tribunal céleste, où Dieu et l'adversaire discutent du sort de Job, ça n'a rien d'un reportage en direct des coulisses de l'univers, alors ?
Absolument pas. Le public moderne lit cette scène et se dit « Mais pourquoi le créateur omniscient demande-t-il à un être spirituel d'où il vient ?» Exactement. Mais l'auteur du livre de Job n'essaye pas de décrire la réalité du fonctionnement divin. Il utilise un motif littéraire très spécifique et universellement compris dans le Proche-Orient ancien, le conseil divin.
D'accord.
À cette époque, en Mésopotamie ou à Canaan, on imaginait la gestion du cosmos sur le modèle d'un souverain royal entouré de ses ministres et fonctionnaires. Un roi qui reçoit des rapports et distribue des missions.
Donc l'auteur biblique emprunte simplement ce décor familier pour planter son intrigue ?
C'est tout à fait ça. Ce n'est pas une défaillance de l'omniscience de Dieu. C'est la mise en place d'une scène d'exposition théâtrale pour gérer les affaires cosmiques selon les codes culturels de l'époque.
D'accord, je comprends l'idée du décor administratif de l'époque. Mais le soi-disant Paris lui-même reste un obstacle majeur, non ?
C'est vrai que ça choque.
L'idée que la souffrance humaine puisse naître d'une provocation, d'un jeu de hasard cosmique entre Dieu et l'adversaire, c'est glaçant, pour le coup.
Et c'est justement là que la mécanique du récit se met en place. Ce prétendu pari n'est pas une révélation sur l'origine mystique de la souffrance humaine dans notre réalité.
C'est quoi alors ?
C'est une construction narrative indispensable pour le public. Dans le monde antique, et même très souvent aujourd'hui d'ailleurs, dominait ce qu'on appelle le principe de rétribution.
Une sorte de karma, c'est ça ? Les justes prospèrent et les méchants souffrent.
Voilà. Et pour déconstruire cette idée, l'auteur doit établir de manière indiscutable que la souffrance de Job n'est pas le résultat de ses péchés.
Ah, parce que si on a un doute là-dessus, le livre ne marche plus.
Exactement. Si le lecteur a le moindre soupçon que Job souffre parce qu'il a fauté, tout le livre perd son sens. La question centrale est posée par l'adversaire. Job sert-il Dieu pour rien ?
En d'autres termes, la foi humaine peut-elle être désintéressée ou c'est juste un contrat commercial caché ?
C'est ça. Le personnage de Dieu, dans ce texte, n'a aucun doute sur l'intégrité de Job. L'enquête est ouverte pour nous, les lecteurs, pas pour lui.
C'est super intéressant. Si l'objectif est d'informer le public plutôt que de lever une incertitude divine, cette réunion céleste fonctionne un peu comme la communication d'un PDG lors d'une grande fusion d'entreprises.
J'aime bien cette image.
Le PDG connaît déjà les chiffres. Il sait exactement quelles entreprises vont être absorbées. Il n'a aucun besoin d'explorer le marché.
Oui, il a déjà toutes les données.
Voilà. Mais il convoque une grande réunion plénière le lundi matin pour que tous les employés dans la salle, c'est-à-dire nous, les lecteurs, partent de la même ligne de départ pour qu'ils comprennent les enjeux du bouleversement qui va suivre.
C'est une excellente analogie. Et ces employés ont besoin de voir la dynamique se mettre en place pour comprendre l'ampleur du bouleversement. La scène céleste pose le postulat de base « Job est innocent » et pourtant, le système va s'effondrer autour de lui.
Le coût de cette fameuse réunion reste quand même exorbitant. Je veux dire, si le but de l'auteur est simplement de lancer une réflexion philosophique sur la nature de la foi, devait-il vraiment aller jusqu'à raser l'existence de Job ?
Ça paraît disproportionné, c'est vrai.
Rendre un homme malade est une chose, mais rayer de la carte des milliers de serviteurs innocents et tuer tous ses enfants dans l'effondrement d'une maison, la cruauté de l'expérience dépasse l'entendement humain.
Il faut plonger dans la nature même de la littérature de sagesse du Proche-Orient ancien. Ce genre littéraire ne vise pas à raconter des événements historiques, mais à explorer les limites de l'ordre cosmique.
Donc l'extrême fait partie du code.
Oui, l'extrême n'est pas un accident cruel de la narration. C'est le moteur même de l'exploration. Examinons un peu les alternatives narratives.
D'accord.
Si l'auteur avait fait perdre à Job uniquement sa richesse matérielle, le débat entre Job et ses amis aurait été stérile. On aurait conclu que la famille et les relations humaines priment sur l'argent.
Ouais, c'est ce qu'on voit dans d'innombrables fables en fait. Le protagoniste perd sa fortune mais se console en serrant ses enfants dans ses bras. Et il réalise que l'amour est la vraie richesse.
Exactement. Et la question de la foi désintéressée n'aurait pas du tout été résolue.
C'est vrai.
De même, si Job avait perdu ses biens et sa famille, mais gardé une santé éclatante, l'argument aurait été que la force vitale, la résilience physique, c'est le socle de l'existence.
Donc il fallait tout lui enlever.
Pour que l'instruction de sagesse fonctionne, pour que la conversation sur la justice divine ne puisse se raccrocher à aucune branche de réconfort humain, l'auteur devait éliminer toutes les variables de l'équation. Seule une perte absolue, symétrique et dévastatrice permettait d'isoler le noyau du problème.
Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Ça me fait penser à une expérience scientifique hyper rigoureuse.
Comment ça ?
Pour tester une hypothèse pure sur la gravité, par exemple, on ne laisse pas tomber une plume et un marteau dans un champ balayé par le vent. Le scientifique crée une chambre à vide.
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Il aspire tout l'oxygène, il élimine la résistance de l'air, il contrôle l'humidité. L'auteur du livre de Job est ce scientifique de l'Antiquité. Pour tester l'hypothèse de la foi totalement désintéressée, il crée le vide absolu autour de Job.
Il retire le confort financier, le statut social, la descendance, la santé physique.
Exactement. Seulement, ce n'est pas une plume et un marteau qu'il place dans cette chambre à vide, c'est un être humain qui ressent la douleur.
Et c'est ça qui est difficile à lire.
Totalement. Et quand cet humain, au fond de ce vide oppressant, exige des réponses, exige un procès équitable. Le personnage de Dieu réagit avec un mur de silence glacial, puis par l'intimidation pure. Pourquoi cette posture ?
Job exige effectivement une comparution juridique. Il veut utiliser le langage du tribunal, demander une assignation à comparaître pour obliger Dieu à présenter son dossier d'accusation.
Il veut des preuves de sa culpabilité.
C'est ça. Le silence prolongé de Dieu, puis son intervention depuis la tempête, répondent à une nécessité structurelle, comme le démontre Walton.
C'est-à-dire ?
Si Dieu descendait dans l'arène pour répondre aux arguments juridiques de Job, s'il lui fournissait une équation claire du type « Voici la cause A de ta souffrance B », cela validerait la théologie que le livre cherche précisément à détruire.
Ah oui, cela confirmerait que l'univers fonctionne bien comme un distributeur automatique, en fait, et que Dieu nous doit un reçu détaillé pour chaque épreuve.
Exactement. La posture imperméable de Dieu démontre que le litige humain n'a pas prise sur la gestion cosmique. Et puis, analysons le discours final de Dieu.
Ouais, le fameux discours avec les monstres.
Il ne fait pas la leçon morale à Job. Il décrit des forces de la nature, la création des étoiles et surtout ses créatures mythiques, le Behemoth et le Léviathan.
Souvent, on a l'impression que c'est juste une liste d'animaux imposants pour humilier Job, pour souligner sa petitesse.
C'est la lecture moderne habituelle, oui. Mais dans l'imaginaire antique, le Léviathan n'est pas juste un gros crocodile. C'est le symbole du chaos primordial, des forces indomptables et dangereuses de l'univers.
Donc ça va bien plus loin que la zoologie.
Qui ne sont pas mauvaises en soi, mais qui ne sont pas non plus domestiquées pour le confort humain. Le dieu de Job est irréductible.
Il ne rentre dans aucune boîte contractuelle, quoi.
Exactement. Cela soulève une question importante, et Walton fait d'ailleurs un contraste frappant avec le livre des psaumes.
Ah bon ?
Ouais.
De quelle manière ?
Dans d'autres textes de la même culture, la divinité est décrite comme un berger intime, attentif au moindre murmure, comptant chaque larme. La froideur terrifiante du dieu de Job n'est donc pas la norme de l'époque.
C'est vraiment un rôle sur mesure pour repousser les limites de la compréhension humaine, alors ? Mais si je peux me faire l'avocat du diable, ou plutôt l'avocat du lecteur moderne qui souffre avec Job, le dénouement reste très difficile à digérer, émotionnellement.
Je peux le concevoir.
À la fin, Job récupère le double de ses biens de départ. Il a de nouveaux enfants. Mais il n'y a aucune explication, aucune reconnaissance de la violence de l'épreuve.
C'est un point de friction courant.
Bah oui, pensons à la dynamique d'une relation toxique. C'est comme si un ami brisait votre voiture à coups de main sans raison et que le lendemain, cette même personne vous offrait une montre de luxe en refusant catégoriquement d'aborder les événements de la veille.
C'est une image forte, hein ?
Il est presque impossible, d'un point de vue humain, de ne pas porter un jugement moral sévère sur un tel comportement, non ?
Cette réaction est tout à fait naturelle, mais elle illustre le piège principal de notre époque littéraire.
C'est-à-dire ?
Nous sommes tellement habitués aux romans psychologiques modernes que nous cherchons une cohérence émotionnelle là où il n'y en a pas. Le danger, selon John Walton, c'est de psychologiser un artifice narratif.
Donc on cherche de la psychologie chez une construction théorique.
Voilà. La restauration de Job à la fin n'est pas la tentative d'un personnage divin pris de remords qui essaierait d'acheter le pardon de sa victime en la couvrant de cadeaux.
D'accord.
Le livre de Job est une littérature de sagesse structurée autour de cycles de discours. La restauration finale, c'est simplement la fermeture de l'arc narratif.
Juste la fin de l'histoire, pour boucler la boucle.
Exactement. L'histoire devait boucler la boucle pour affirmer au lecteur que, malgré le chaos apparent et l'incompréhension totale de Job, l'ordre cosmique et la justice divine ne sont pas fondamentalement brisés.
C'est purement structurel, en fait.
Chercher des remords psychologiques chez ce personnage divin, c'est appliquer les codes d'une série dramatique télévisée à une architecture philosophique antique.
Le problème, c'est que se détacher de notre lecture émotionnelle demande un effort intellectuel vraiment intense. Le texte est tellement incarné, la souffrance de Job est tellement poignante qu'il est incroyablement ardu de garder cette distance analytique.
C'est le génie de l'auteur aussi.
Oui, mais il faut sans cesse se rappeler, c'est un personnage, ce n'est pas un profil psychologique. Existe-t-il une clé, un autre modèle de lecture qui nous serait plus familier pour nous aider à digérer cette méthode jobienne ?
Oui, tout à fait. Walton propose un parallèle très éclairant avec une forme littéraire beaucoup plus connue, les paraboles de Jésus dans les évangiles. C'est le laboratoire idéal pour observer cette même mécanique.
Ah, les paraboles, ça parle à beaucoup de monde.
Dans ces paraboles, Jésus prend des situations sociales réelles, mais il y injecte volontairement des éléments exagérés, illogiques ou même scandaleux pour faire éclater une idée préconçue.
Prenons le temps d'examiner comment cette mécanique fonctionne concrètement. Vous avez des exemples en tête ?
Bien sûr. Attardons-nous sur l'évangile de Matthieu au chapitre 20, avec la célèbre parabole des ouvriers de la 11e heure.
L'histoire avec le propriétaire terrien et la vigne.
Exactement. Un propriétaire terrien qui alors présente Dieu embauche des ouvriers à l'aube, puis à une heure de la fin de la journée, il en embauche d'autres.
Ouais.
Au moment de la paix, il donne exactement la même somme astronomique à ceux qui ont travaillé une heure et à ceux qui ont transpiré 12 heures sous un soleil de plomb.
Ce qui, économiquement parlant, n'a aucun sens.
c'est ça. Si l'on lit cela comme un traité d'économie ou de gestion des ressources humaines divines, c'est une absurdité cruelle, c'est une injustice flagrante. Mais personne ne lit ce texte en concluant que Dieu est un mauvais gestionnaire financier.
C'est vrai. Personne ne se dit ça, on cherche le message spirituel derrière.
L'exagération structurelle sert à démontrer que la grâce divine ne relève pas de la méritocratie humaine. Rien de plus.
Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, la mécanique est encore plus déroutante. On y trouve l'histoire d'un gestionnaire qui est sur le point d'être renvoyé pour incompétence.
Ah oui, le gestionnaire malhonnête.
Voilà. Pour assurer ses arrières, il convoque les débiteurs de son maître et réduit illégalement leurs dettes. C'est de la fraude pure et simple.
Et la parabole raconte que le maître, représentant la perspective divine, félicite carrément ce gestionnaire malhonnête pour son habileté. C'est l'exemple parfait. Si l'on prend l'attitude du maître au premier degré pour dresser un portrait moral de Dieu, on aboutit à la conclusion que le divin encourage l'escroquerie et la falsification de documents comptables.
Ce qui serait un peu problématique.
Très problématique. Mais le lecteur comprend d'instinct que l'intention est ailleurs. La leçon porte sur la sagacité et l'urgence de prendre des décisions face à une crise imminente. On ne fait pas de profil psychologique de Dieu basé sur un maître frauduleux ou sur un propriétaire terrien injuste.
D'accord, le lien avec Job devient très clair maintenant.
Eh bien, John Walton nous exhorte à appliquer exactement la même prudence au livre de Job. Ce que l'auteur antique fait faire au personnage de Dieu dans sa structure narrative est infiniment moins important que ce que ce récit révèle sur les limites de notre compréhension de l'univers.
C'est brillant. Ça me rappelle la façon dont fonctionnent les caricatures politiques dans les journaux. Imaginons un dessinateur qui veut dénoncer la corruption d'un élu.
Une caricature, oui. C'est un bon parallèle.
Il va dessiner cet homme politique avec des poches géantes qui traînent par terre et un nez démesuré. Ce nez géant n'est pas un fait clinique.
Et si on se concentre sur ce nez géant en cherchant une maladie respiratoire, on rate complètement la satire politique, la disproportion visuelle et le véhicule du message.
Mais c'est exactement ça. Essayer de saisir la nature profonde, compatissante ou juste de Dieu en analysant littéralement le silence terrifiant ou les paris destructeurs dans le livre de Job.
Ce serait faire fausse route.
Ce serait exactement comme utiliser cette caricature politique pour établir le portrait robot d'un suspect au commissariat de police. L'outil n'est pas conçu pour rendre compte de la réalité physique ou psychologique. C'est un véhicule d'idées.
La comparaison saisit super bien l'enjeu. Le livre de Job n'est pas un portrait robot théologique. Son message ne se trouve pas dans l'inventaire des actions brutales de Dieu, mais dans la vaste réflexion qu'il propose sur la politique de la sagesse cosmique.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Une fois qu'on a fait ce pas de côté, qu'on a rangé le portrait robot et compris qu'il s'agit d'une chambre à vide conceptuelle, quelle est la véritable conclusion à tirer de ce texte ?
C'est la grande question, oui.
Au-delà du vertige littéraire, que reste-t-il pour le lecteur qui cherche un sens ?
La synthèse magistrale de cette œuvre, c'est que les rouages de l'univers et la sagesse qui les gouverne sont infiniment trop vastes, trop sauvages et trop complexes pour être réduits à une équation humaine.
Nous cherchons constamment à enfermer la justice dans un rapport de cause à effet, non ? Un bon comportement entraîne une récompense, une faute entraîne une punition.
Exactement. Et le livre de Job détruit cette idée. L'univers n'est pas un distributeur automatique. Dieu ne justifie pas la gestion du cosmos à l'échelle individuelle, car l'ordre de la création inclut des éléments comme le Léviathan.
Des forces indomptables.
Voilà. La leçon est vertigineuse, mais libératrice. Ayant conçu un monde avec une architecture d'une telle ampleur, le divin invite l'humain à une confiance aveugle en cette sagesse, même lorsque le brouillard est total. Surtout, le texte nous met en garde contre l'arrogance intellectuelle qui consiste à bâtir des théologies rigides à partir d'une mauvaise lecture des dispositifs narratifs antiques.
C'est un avertissement d'une pertinence absolue et qui dépasse largement le cadre théologique antique. Je veux dire, nous baignons aujourd'hui dans une culture numérique qui encourage exactement l'inverse de cette prudence.
C'est le moins qu'on puisse dire. L'information rapide prime sur la nuance.
Sur les réseaux sociaux, dans les cycles d'information en continu, la norme est d'isoler une citation, de sortir un événement de son contexte global ou de prendre au pied de la lettre une métaphore pour déclencher une indignation immédiate.
C'est la culture du clash.
Exactement. Apprendre à lire la complexité de Job, s'efforcer de distinguer la forme polémique du fond philosophique, c'est un entraînement cognitif redoutable pour nous aujourd'hui. C'est réapprendre à chercher le mécanisme, le pourquoi profond, au lieu de se laisser emporter par le scandale du quoi.
L'exercice de la pensée exige de ne jamais s'arrêter à la surface abrasive des événements ou des textes, mais d'en chercher l'architecture sous-jacente.
cela soulève une réflexion finale qui mérite qu'on s'y attarde pour prolonger cette exploration. Les auteurs anciens ont utilisé la perte absolue de troupeaux, la mort de serviteurs et la maladie physique destructrice pour bâtir leur chambre à vide philosophique.
C'était les critères de l'époque.
C'était les paramètres d'effondrement qui résonnaient dans l'imaginaire du Proche-Orient ancien pour tester la résilience humaine. Mais si un auteur moderne devait réécrire le livre de Job aujourd'hui, pour notre époque, à quoi ressemblerait ce dispositif ?
C'est une excellente question.
Faudrait-il imaginer un personnage dont toute l'existence numérique, l'identité financière et les souvenirs numérisés sont instantanément effacés par une intelligence artificielle incontrôlable ?
Le vide absolu version 21e siècle.
Ou bien faudrait-il inventer un effondrement global des infrastructures qui balaye toutes nos certitudes modernes sur la sécurité et le progrès médical ? Quelles seraient les variables contemporaines qu'il faudrait nous arracher pour créer cette même chambre à vide et tester véritablement les limites de la foi contemporaine ?
Ça donne matière à réfléchir.
Une chose est sûre, une fois qu'on réalise qu'on est bien devant un chef-d'œuvre de pensée architecturale et non devant un compte-rendu historique, on peut enfin cesser de lutter contre l'injustice de la forme, s'installer dans la complexité du fond et saisir l'ampleur du message sur l'irréductible mystère de notre condition.